Merci beaucoup, Madame Guérin. Donc, comme nous le disions, nous avons en ligne Jean-Michel Poulot, qui est président de la Fédération des radios des Pyrénées-Atlantiques. Et cela vous a vous intéressé, Madame Balza, puisqu'on va parler, il va nous parler des liens avec la préfecture. Alors, Monsieur Poulot, vous nous entendez?
Je pense que vous m'entendez mieux maintenant.
Oui, voilà, ça y est, on vous entend.
Mon micro ne voulait pas se réactiver, pardon, ça arrive quelquefois en télétravail.
Alors, Monsieur Poulot, autour de la table, nous avons divers représentants, dont Madame Balza, qui est directrice de cabinet de la préfecture de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine. Et nous parlions justement des relations entre les médias et la préfecture en ces temps de crise. Vous, en tant que président de la Fédération des radios des Pyrénées-Atlantiques, quel est votre point de vue, quel est votre témoignage de ce que vous avez pu vivre?
Eh bien, moi, je vais vous compléter le propos de Madame la directrice de cabinet, puisque justement, je vais vous parler des possibilités de travail que nous avons avec le préfet du département, Monsieur Eric Spitz, je vais le nommer, parce que nous travaillons très bien et très facilement avec les services de la préfecture, mais également avec les services du département, notamment tout au long de cette crise du Covid. Alors, je parle au nom de mon équipe, parce que mon équipe, la directrice d'antenne et la salariée qui sont à la radio, mais trois ou quatre membres de la radio qui agissent aussi en bénévole, on fait énormément de travail tout au long de cette crise depuis le début et on continue ce travail. Donc avec tous ces services-là, tous ces services publics, nous avons travaillé en étroite collaboration, je crois, parce qu'ils sont parfaitement conscients du rôle que nous avons à jouer pour transmettre les informations. Et ils sont conscients aussi du fait que nous touchons sans doute un public différent de ce que peuvent toucher les chaînes de télé, les radios nationales ou commerciales qui n'ont pas les mêmes publics que nous. Et il faut absolument, en cas de crise en particulier, faire passer l'information au plus grand nombre. Donc c'est là que notre rôle est important, si ce n'est primordial, parce que nous avons les publics les plus diversifiés possibles, urbains ou ruraux, des jeunes et des un peu moins jeunes. Je ne veux stigmatiser personne, il faut faire attention à tout ce que l'on dit, comme disait Madame la Présidente du CTA il y a quelques instants, mais on s'adresse vraiment au plus large public par définition, et dans cette crise en particulier, on a joué un rôle primordial parce que nous avions les moyens de le faire, y compris à distance. Nous avions, nous, les radios associatives, je crois déjà, une bonne maîtrise de la plupart des outils informatiques et des outils de travail à distance, qui fait que dès le début de la crise, nous avons pu relayer les audioconférences, les vidéoconférences, et faire passer au plus rapide et au plus près de la population, des populations, toutes les informations nécessaires émanant de la préfecture et du département. Et la fédération départementale des radios Fédéra 64 a permis de partager, quand une radio faisait la prise de son, de partager entre les radios membres le son pour que tout le département puisse avoir l'information dans un temps le plus court possible.
Madame Balza, une réaction à ce témoignage?
Non, je suis absolument en phase avec monsieur et je salue au passage Eric Spitz, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui en effet travaille, comme je l'ai dit, au niveau départemental, puisque c'est sa compétence. Non, dire qu'en effet, c'est en fait une relation de confiance qui s'est créée depuis un an, alors même avant, mais là, elle s'est resserrée, cette relation, elle s'est resserrée, puisque, je ne suis pas entrée dans le détail, mais pour la crise sanitaire, au début du confinement l'année dernière, au mois de mars, les relations avec les radios pour passer des communiqués de presse, pour donner des informations sur l'évolution de l'épidémie, sur les règles, on s'en souvient plus, c'est passé vite, mais sur les règles sanitaires, sur les contraintes du gouvernement aussi en termes de distance qu'on pouvait parcourir. On a oublié, vous vous souvenez, les attestations, enfin bref, tout ça, on le faisait passer par la voie de la radio toutes les semaines. Donc c'était un rendez-vous régulier qui était préparé, bien sûr, par tous les services de la préfecture et qui était proposé au préfet et proposé donc aux habitants du département via les radios. Et c'était une relation, en effet, de confiance. C'était un rendez-vous hebdomadaire qui permettait à nous d'être sûrs que toutes ces dispositions qui évoluaient tout le temps, de semaine en semaine, fortement, étaient relayées. et puis aux radios de savoir qu'elles avaient ce rendez-vous hebdomadaire pour pouvoir répondre aux questions de la population départementale.
Merci. Alors, lorsqu'on parle de crise, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la crise sanitaire parce que c'est ce qui nous marque en ce moment, mais ça peut être des crises plus ponctuelles, très courtes. Récemment, en Dordogne, il y a eu un événement dramatique et nos confrères de Cristal FM, Angélique Pouc, va nous en parler puisqu'ils étaient au cœur de cette traque à l'homme. Ils étaient en plein dans le secteur et ils ont suivi l'actualité, ils ont couvert l'actualité vraiment à la minute près. Angélique Pouc, je vais vous laisser témoigner de cette réactivité, de cette instantanéité qui permet aux radios associatives locales de couvrir les événements très rapidement et à la minute près.
Alors bonjour à tous, à tous ceux qu'on voit à travers la vidéo. Effectivement, Cristal FM a été présente tout au long de la traque, c'est-à-dire que ça a duré 36 heures, 36 heures de cavale pour l'individu, pour le fugitif, mais aussi 36 heures pour la petite équipe de Cristal FM qui a été vraiment... au cœur de cet événement. De grands médias étaient là, bien sûr, mais les médias, la télé, on le sait tous, ça ne fait pas tout, ça en rajoute beaucoup. Nous, on connaissait les locaux, on connaissait les lieux, on avait des avantages. On travaille, nous aussi, sans partenariat, comme on a pu le dire, France Bleu, etc. Nous, on travaille aussi avec la préfecture. On reçoit tout par mail. En l'occurrence, par contre, on n'a rien reçu concernant la panne géante. Ça a été un petit couac. On aurait pu faire quelque chose, malheureusement. Voilà, on n'a pas fait appel à nos services, on aurait pu être là. Mais concernant, oui, la traque avec le forcené, ça a été quelque chose d'inédit pour nous aussi. Donc, on prend le matériel qu'on a, on part sur place au PC de crise. On est accueillis, on a été très bien accueillis, nous, les journalistes locaux, aussi bien que les autres. Et voilà, on était là au plus près pour la population, pour les aider à traverser ce moment difficile. Alors, évidemment, quand les caméras s'en vont, c'est oublié. On passe à un autre fait divers. C'est malheureusement la mode en ce moment. Mais ça continue derrière. Les cellules psychologiques, les écoutes psychologiques sont en place. Et ça, on n'en parle plus, malheureusement. Mais nous, les médias locaux, on est là pour dire que ça continue. Il faut appeler tel et tel numéro de téléphone pour accéder à la cellule d'écoute psychologique. Et puis voilà, après, c'était très particulier, c'était assez rude, mais on était là.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Un autre événement qu'il y a eu, dont on parlait, ça a été les inondations qui ont touché notamment le Lot-et-Garonne et la Gironde. Alors, je parle du Lot-et-Garonne puisque je suis Lot-et-Garonnaise. Et on avait vu cette couverture nationale qui avait duré le temps des inondations et qui était partie. Et Monsieur Dupont Gérard Dupont va témoigner puisque le rôle des radios a été bien au-delà de une fois que l'eau s'est retirée, un accompagnement beaucoup plus lointain avec les sinistrés.
Alors, je dirais même que cet accompagnement continue. Parce que derrière un événement douloureux et difficile, qu'il soit climatologique, qu'il soit autre, et c'est le cas de cette pandémie, nos radios sont toujours présentes. On est encore là, on donne toujours des nouvelles. Et ça, c'est très important. Donc l'information qui arrive d'un petit peu partout, il faut penser à continuer à la relayer. Notre Premier ministre nous a fait l'honneur de sa présence en Lot-et-Garonne et du côté de Marmande. En dehors de l'ensemble des réseaux télévisuels qui sont venus là pour un jour maximum, reste derrière la presse écrite, locale, et puis les radios. Ne serait-ce que pour nous, nous avons déjà créé pas moins de 3 heures d'émission autour de ce phénomène. Et on continue à inviter ceux qui continuent à vivre la suite de ce que ça veut dire une crise comme celle-là. C'est pas rien. C'est important. Donc, il serait utile peut-être que les pouvoirs publics, d'une part, et je sais qu'ils font le maximum, mais puissent entendre ce genre de rendez-vous du avant, du après, du pendant et du après. Or, le après, c'est toujours nous. Il ne faut pas oublier ça. Et justement, notre confrère disait tout à l'heure, notre consoeur, cette côté essentiel qui est le côté un petit peu source supplémentaire et socio-psychologique, ça c'est quelque chose qu'on n'entend nulle part. Nous, on le fait. Voilà. Je parle au nom de tous mes confrères qui sont ici. Effectivement, c'est une dimension que je vous demande, juste vous, madame la représentante de la région, au niveau de la préfectorale, s'il vous plaît, de porter comme discours et comme écoute. Chose que l'on va faire avec vous, mesdames, justement, les responsables élu de chacune de vos communes. Et je pense que c'est peut-être le moment, ou jamais, peut-être de leur tendre le micro et de leur donner leur point de vue. Et on va commencer peut-être.
Avec Julie Castillo, vous êtes donc maire de Casteljaloux, deuxième vice-président de la communauté de communes Côteaux-Élandes de Gascogne en Lot-et-Garonne. Alors, vous porterez la voix de la ruralité, puisqu'on va remettre tout le monde... Alors, le Lot-et-Garonne est déjà assez visiblement difficile à identifier sur une carte de France. Casteljaloux, c'est combien d'habitants ?
Alors, Casteljaloux, merci d'abord de votre invitation pour représenter justement la ruralité. C'est quand même un honneur de venir porter la voix du Lot-et-Garonne à l'hôtel de région. Donc, Casteljaloux, c'est la petite ville balnéaire du Lot-et-Garonne. C'est un peu comme ça qu'elle est qualifiée et nous n'en sommes pas peu fiers. Et elle compte environ 4700 habitants.
Et la communauté de communes, ce n'est pas très très grand non plus.
Environ 12 000.
Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous porterez la voix de la ruralité. Une radio, vous en avez une dans votre ville, CFM Radio, qui depuis 40 ans est sur Casteljaloux. Alors, quelles sont vos relations avec cette radio, vous en tant que maire, l'importance, la façon dont vous pouvez travailler avec ?
Alors déjà, on partage un point commun assez exceptionnel avec CFM Radio, qui était à l'époque Castel 102. Je ne citerai pas le nom qui est banni par Monsieur le Président et que m'a confié son épouse tout à l'heure. Mais nous partageons le fait que nous allons avoir 40 ans, toutes les deux, cette année. Donc c'est quand même le premier point commun qui nous relie et qui nous rapproche. Alors, je vais vous parler tout simplement, moi, de mon expérience purement locale sur Casteljaloux. Je suis maire depuis 2017, au mois de février, mais je suis native de Casteljaloux et donc, forcément, j'ai connu Castel 102 et aujourd'hui CFM Radio à ses débuts et j'ai partagé ma vie aux côtés de Castel 102 et CFM Radio. Je vois aussi d'autres points communs. À part cette petite boutade d'introduction, les points communs, je les vois entre la fonction de la radio et finalement la fonction de l'élu local dans un milieu rural. Toutes les deux, nous avons un engagement d'abord de proximité et un engagement pour le territoire rural. La proximité, elle est d'abord entre les personnes. Pour la radio, je suis non pas Madame le maire, mais je suis Julie. Ou Julie Castillo, vouvoiement, tutoiement, nous hésitons parfois, encore à midi. Et pour moi, la radio, c'est Patrick, Mireille, Gérard, Aurélie, Stéphane, Valérie et bien sûr tous les autres. Donc c'est une proximité, je le dis tel que je le pense, parce que c'est une proximité qui a du sens et qui nous permet de communiquer de manière très facile, nous, à notre échelle locale, pour des petites collectivités comme les nôtres, en milieu rural. La radio, c'est un engagement pour le territoire rural, pour sa promotion, pour sa valorisation, pour sa défense. Et la preuve aujourd'hui, nous sommes beaucoup de représentants de la ruralité, finalement, et des petites structures locales. Et c'est un engagement pour la défense des valeurs, des traditions et des cultures de notre petite collectivité locale. Moi, ce qui caractérise ma radio locale, et je dis « ma », radio parce que je vis avec elle et à ses côtés depuis le même nombre d'années, c'est que c'est une force de réactivité à nos côtés, nous les élus locaux, et c'est ce dont nous avons besoin. On vient aujourd'hui pour parler de situations particulières, la gestion des crises dans les collectivités. Ce qu'il faut savoir quand même, et vous le savez déjà, c'est que nos radios associatives locales, elles fonctionnent grâce aux salariés qui les composent, mais elles fonctionnent aussi et surtout grâce aux nombreux bénévoles aussi qui les composent. Et nous souffrons tous, surtout en cette période d'une crise du bénévolat, donc c'est d'autant plus important que de venir épauler et soutenir les structures et les bénévoles qui les composent. Ces bénévoles, ils sont prêts à tout, c'est-à-dire qu'ils sont constamment sur le terrain. Et là, je parle des bénévoles, mais je parle évidemment aussi des chroniqueurs et des journalistes de nos radios associatives locales. Ils sont constamment sur le terrain, prêts à tout bouleverser, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour venir à nos côtés et pour faire ce pour quoi ils sont faits, c'est-à-dire avant tout informer. Parce que dans des périodes de crise comme celle que nous avons vécue depuis l'an dernier, eh bien, la population a besoin d'être informés, d'avoir cette information, puisque nous, nous étions privés, alors que c'est notre rôle d'élu local d'aller vers, eh bien, nous étions privés de cette possibilité d'aller vers eux. Et donc, il était important de multiplier les canaux de communication. Et bien sûr qu'à notre échelle locale, la radio associative a toute son importance. Nous, pour cette période Covid, puisque je vais parler d'abord de cette crise-là, nous avions mis en place des dispositifs particuliers. Je vais parler exclusivement là de la première phase, c'est-à-dire au lendemain même des élections, avec une impossibilité totale d'installer nos nouveaux conseils municipaux. Donc nous fonctionnions de manière un peu bancale, même si nous avons continué à assurer la continuité du mandat qui était le nôtre, mais nous avions mis en place une cellule de crise composée uniquement de quelques élus, quelques agents administratifs et quelques agents techniques. Et à ce moment-là, eh bien, la radio, elle s'est adaptée parce que le président m'a téléphoné pour savoir si tous les bâtiments municipaux étaient fermés. J'ai dit oui, à l'exception du studio d'enregistrement, parce qu'on a besoin de vous et donc on a besoin de pouvoir compter sur vous. Donc on a multiplié pendant cette période, Aurélie s'en souvient, les appels à distance, les appels en direct avec Stéphane pour tenir informé la population. Je cite de cette crise Covid, je pourrais également citer la période des inondations de 2018, fin mai, début juin 2018. Si nous avions l'eau jusqu'aux genoux pour faire la circulation sur nos routes communales, la radio était aussi bien présente pour assurer un suivi et surtout pour rassurer les administrés. La radio associative locale, sa force, c'est qu'elle connaît à la fois son territoire. Pour moi, ce n'est qu'un avis personnel, mais je pense que beaucoup le partagent. Elle connaît son territoire, elle connaît également ses habitants. Et ce qui est important, à mes yeux, c'est qu'elle leur donne la parole à ses habitants, pris dans leur individualité, sans qu'on se focalise uniquement sur l'élu local, le président de telle communauté des communes, l'élu du conseil départemental. Non, c'est avant tout la place de l'homme qui est importante. Et c'est là la force, à mon sens, de la radio locale. Et c'est cette force-là qu'il faut préserver. On parlait tout à l'heure de la gestion de la crise. Crystal FM a évoqué la gestion de l'après-crise. Et c'est là où la radio associative locale a aussi toute son importance. Donc, à notre petite échelle, nous, petites communes rurales, nous les soutenons. Nous leur apportons notre soutien effectif. Un soutien, il passe par différentes formes. C'est un soutien financier, c'est un soutien logistique, un soutien matériel, un soutien aussi amical dans notre cas. Et donc, moi, ce que je souhaite aujourd'hui aux radios associatives locales qui fêtent donc leur 40 ans de liberté, eh bien, c'est que ce soutien, elle puisse en bénéficier au-delà des frontières de nos petites communes ou de nos petits départements ruraux. Donc, sincèrement, je vous remercie, moi, de m'avoir permis de porter la voix de notre territoire rural qui est profondément attaché à votre existence.
Merci beaucoup, Madame Castillo. Julie Castillo, vous portiez la voix de la ruralité de ces communes rurales. Alors, vous êtes Casteljalousaine, mais c'était un peu tout le monde rural que vous représentiez. Les radios associatives locales ne sont pas que présentes dans la ruralité, ce serait un peu réducteur de dire ça. Elles sont également présentes en milieu urbain, également que ce soit des petites villes, des grandes villes comme Bordeaux. Charlie Dattos, vous êtes conseillère municipale déléguée pour les événements et les festivités à la ville de Bordeaux. Vous représentez Monsieur le maire qui n'a pu être là. Les radios associatives locales, vous en avez à Bordeaux, vous en avez plusieurs et vous travaillez bien ensemble.
Oui, on a de nombreuses radios locales. On a vraiment un tissu qui est très, très vif à Bordeaux et sur la métropole. C'est vrai que les radios locales ont toujours été pour nous très utiles pour... Enfin, toujours. On n'est pas arrivé depuis très longtemps à la ville de Bordeaux, mais en tant que citoyenne et en tant que conseillère municipale, c'est vrai que les radios locales sont vraiment essentielles. Madame Castillo parlait tout à l'heure de la proximité, et c'est vrai que dans une ville telle que Bordeaux et dans la métropole plus largement, cette proximité, on a du mal à la retrouver et on la recherche beaucoup. Finalement, le sentiment d'isolement et de solitude peut parfois être encore plus accentué par l'effet d'échelle et être très entouré et se sentir très seul, ça peut être très difficile. Et en fait, les radios locales nous aident à créer ce lien, à créer cette proximité, notamment à montrer aussi que ces grandes villes et ces grandes métropoles sont aussi composées de citoyens et de citoyennes qui ont leur individualité, qui ont leur réseau et qui peuvent se fédérer au travers des radios locales. Je pense par exemple au développement culturel de la scène musicale bordelaise qui est très active et très vivante et qui peut se produire sur nos radios locales alors qu'elle n'a parfois pas accès aux antennes nationales. Et du coup, il y a une vraie importance pour cultiver cette richesse-là. Et c'est vrai que dans notre équipe municipale, on est extrêmement attaché, on est très girondin dans l'esprit, on est extrêmement attaché à avoir cette indépendance et cette culture du local, cette culture aussi de cultiver les vies de quartier. Les radios locales nous aident aussi pour ça. On a des radios qui ont des programmes avec les jeunes des quartiers. Qui leur proposent de trouver leur voix, de créer leurs propres petites émissions de radio, parfois de leur laisser un petit peu d'antenne. On a un partenariat, notamment radio locale, avec la bibliothèque du Grand Parc à Bordeaux. Donc voilà, toutes ces choses nous permettent quand même de cultiver le lien et de mettre en avant aussi notre spécificité locale, culturelle, mais aussi parfois politique, puisque les radios locales sont aussi des vrais lieux de débat. Et ça, on a pu le voir pendant les élections, par exemple. C'était un vrai plaisir de pouvoir avoir des vrais débats et des vrais échanges. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète particulièrement en ce moment, c'est la polarisation qu'on peut voir via les réseaux sociaux et cette incapacité au débat qui se crée. Pour moi, l'importance des radios indépendantes, c'est aussi de pouvoir créer ces débats-là et ces vrais temps d'échange pour faire aussi évoluer les pensées et créer des porosités là où finalement on a l'impression parfois qu'on n'en a plus du tout. Donc par rapport à des radios qui seraient soumises à des grands groupes par exemple où on a quand même une certaine uniformisation quand même de la parole, les radios locales nous permettent aussi de sortir de cette uniformisation, d'aiguiser les esprits critiques et sont des vrais outils pour la démocratie permanente à laquelle on est extrêmement attaché. Donc c'est vraiment finalement nos agora modernes, c'est un petit peu les radios indépendantes et les radios locales. Donc en ça, pour nous, en tant que ville de effectivement de 250 000 habitants qui parfois peut paraître vraiment comme une fourmilière, c'est très utile de cultiver ces individualités et d'avoir des espaces d'échange, de partage, de débat et surtout de dialogue, parce que je pense qu'en 2021, c'est ce qui manque cruellement et que les radios locales nous permettent de faire. Donc je les en remercie particulièrement pour ça.
Merci beaucoup, Madame Dattos. Vous parliez tout à l'heure des jeunes, vous parliez des réseaux sociaux, ce qui fait penser à l'éducation média, qui est une des missions des radios locales associatives. Et je vais me tourner vers Isabelle Martin, qui est déléguée académique à l'éducation et aux médias d'information au rectorat de Bordeaux. Alors peut-être que certains auraient du mal à faire le lien entre radio locale et éducation nationale. Pourtant, il existe un lien réel entre ces deux structures.
Tout à fait. Donc, il existe un lien en particulier sur un certain nombre de projets. Hein. Donc, le CLEMI, vous le savez, donc qui est en charge de l'éducation aux médias, développe en fait l'activité radiophonique dans le cadre pédagogique depuis une vingtaine d'années. On a fêté cette année les 20 ans de Classe Radio. Donc, c'est vrai que c'est cet anniversaire en lien avec finalement les 40 ans des radios associatives, il a tout son sens. La fête de la radio, les 30 ans aussi du CTA de Bordeaux. Et c'est vrai qu'à cette occasion, nous avons créé un événement le 22 mars qui a permis. C'était vraiment très intéressant. Donc, nous avons mis en relation des enseignants qui avaient envie de faire de la radio. Donc, il y avait une cinquantaine de personnes. Et puis, des salariés ou des bénévoles de radio associative qui avaient envie de travailler avec des scolaires. Donc c'est une première initiative que nous avons montée et lancée à l'occasion de la semaine de la presse avec le CTA. Je salue d'ailleurs Anne Guérin, si elle est encore avec nous, présidente du CTA, et Nathalie Richard, sa secrétaire générale. Donc l'idée, c'était vraiment d'identifier les leviers et puis les freins aussi de nos collaborations. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, qu'on n'a pas forcément de temps justement où on peut échanger, se rencontrer. Donc là, l'objectif, c'était de voir quels étaient les points à prendre en compte pour que ça fonctionne. Donc ce qui est sûr, c'est que pour que la collaboration fonctionne, ben, il faut en fait construire ensemble un projet, c'est-à-dire établissement scolaire, radio, Clémy, donc aussi. Des exemples très intéressants sont menés. Je pense au projet que nous développons, par exemple, au lycée professionnel sud Gironde de Langon, où en partenariat, donc le Clémy, le lycée, l'enseignante et aux deux radios ont écrit, hein, à six mains en quelque sorte, le projet, hein, ou à trois mains plutôt, si on est droitier ou gaucher, mais en tout cas, ont écrit ensemble le projet et en identifiant ben, finalement un calendrier, qui va faire quoi, comment on va intervenir. Et là, c'est vrai que quand c'est construit de cette façon-là, ça fonctionne. Vous le savez, dans l'éducation nationale, pour monter un projet, il faut qu'on s'y prenne à l'avance si on veut obtenir des budgets, etc. Donc nous, en général, voilà, un projet, il faut qu'on le monte l'année qui précède sa mise en œuvre, en quelque sorte, au moins en tout cas quelques mois avant. Et donc ça a très bien fonctionné. Ensuite, d'autres exemples. C'est vrai qu'on travaille depuis 5 ans avec Radio Campus, hein, dans le cadre de la certification communication sonore et radiophonique de l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc, c'est pas de la même façon un partenariat tripartite. Hein, et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Et puis, ensuite, des collaborations qui sont plus ponctuelles, mais je pense entre autres à RIG, qui est présent, je crois, dans la salle. Hein. Et c'est vrai que RIG intervient régulièrement auprès de la classe média du Collège du Paty ou du lycée Jean Monnet de Blanquefort, qui a montré sa web radio, qui a son studio maintenant. Donc, il y a énormément de possibilités, mais l'idée, c'est vrai que c'est qu'on puisse dialoguer pour construire ensemble des choses, réfléchir aussi à la question des financements, puisque c'est aussi, je sais que pour vous, c'est le nerf de la guerre. Ça a été abordé sur la journée avec le CTA le 22 mars. Hein. Évidemment, quel financement trouver ? Pour cela, on a évoqué des pistes, hein, auprès de la DRAC, par exemple, Nouvelle-Aquitaine, auprès de la région aussi, parce que, pour information, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les lycées en particulier, il y a ce qui était autrefois des foyers socio-éducatifs. Aujourd'hui, ce sont des maisons des lycéens. Et c'est vrai que la région Nouvelle-Aquitaine est partante pour financer la création de radios et de web radios en particulier dans les lycées. Mais souvent, les jeunes lycéens qui ont la main et l'initiative pour le faire n'y pensent pas. Donc, je vous conseille, si vous êtes dans la proximité de lycée, ben peut-être de vous rapprocher des élus lycéens et de voir s'ils sont intéressés ou pas, hein, sachant qu'en ce cas-là, la région peut financer l'installation du studio et peut aussi financer l'intervention de professionnels de la radio qui viendraient faire vivre cette radio et former les jeunes aussi. Donc, vous voyez, ça, c'est des opérations intéressantes, mais qui nécessitent qu'on ait des temps de travail ensemble. Donc, je crois que la journée qui a été proposée en collaboration avec le CTA Bordeaux au mois de mars sera sans doute reconduite dans une deuxième version en 2022, parce que c'est sur des temps comme ça qu'on peut avancer, en fait.
Pour vous, les radios locales associatives ont donc tout leur rôle à prendre auprès de ces jeunes pour leur apprendre ce que sont les médias, pour bien leur expliquer ce que sont les médias.
Alors, pour leur expliquer ce que sont les médias, bien évidemment, hein, c'est sûr que comprendre comment se produit l'information, hein, ça a été évoqué par Anne Guérin tout à l'heure, on réalise quand on produit ben, les contraintes, les règles d'écriture. Il y a un très grand travail, et vous le savez, sur la voix. Vous n'ignorez peut-être pas que nous sommes très mobilisés dans l'éducation nationale sur ce qui est se préparer à l'oral, le grand oral du bac, on en parle beaucoup, l'oral en troisième. Dès l'école primaire, on nous demande de former les élèves à l'oral, maîtrise des compétences verbales, paraverbales, l'intonation, le débit, gestuel aussi. Quand on fait de la radio, vous le savez mieux que moi, le corps est engagé. Il faut qu'on dynamise notre propos. Et tout ça, ce sont des entrées aussi peut-être pour vous, pour travailler en direction des scolaires, hein, sachant que on est mobilisé aussi au Clémy sur la production de ressources pédagogiques. Et sur le site du Clémy Bordeaux, vous pouvez trouver des pistes sur la préparation à l'oral avec des fiches pédagogiques, hein, Alors évidemment, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais c'est plutôt sur la dimension pédagogique, c'est-à-dire en lien avec quelles compétences, comment on peut après travailler avec les enseignants. Donc sur la préparation à l'oral, je pense que ça peut être tout à fait intéressant de travailler au sein d'une radio. Et puis c'est découvrir des métiers aussi. Voilà, je termine là-dessus parce que aller déjà dans un studio de radio, ben, c'est formidable. Parce que les élèves, ils font beaucoup de radio, de web radio, de radio numérique au sein de leur établissement. Mais aller dans une radio, vivre le frisson de la petite lumière rouge qui s'allume, ça, c'est irremplaçable. Et puis, découvrir, effectivement, il y a un parcours à venir, parcours d'orientation, découvrir des métiers. Il y a des journalistes, il y a des techniciens, il y a des animateurs. Donc, tout ça, c'est intéressant.
Oui, je voudrais rebondir un peu là-dessus. Alors, c'est vrai que, je vais mettre peut-être un petit pavé dans la mare, avec énormément de regrets. Il existe toujours d'ailleurs le Festival des lycéens, à laquelle la FRANA était absolument invitée pour travailler en corrélation et former les élèves, les lycéens, dans le cadre de ce fameux lycée, ce fameux festival du lycée.
Oui.
Donc, je trouve dommageable que désormais, la partie radiophonique ne soit pas invitée. Nous en étions les acteurs. C'est quelque chose qui nous prenait du temps, certes. On le faisait avec bénévolat et intensité. Et je pense que, justement, de ce modèle-là, de ce festival, quelques professionnels aujourd'hui ont pu, grâce à cette découverte, grâce à cet investissement qu'ils ont réalisé dans le cadre de ce travail où ils ont appris ce que c'était vraiment que la radio. Voilà. Alors aujourd'hui, ça manque. Alors est-ce que vous, madame, vous pourriez, au sein de votre organisation, insister auprès de la région pour que ce modèle, finalement, pédagogique et éducatif, puisse reprendre? Parce que je crois que c'est un outil qui a été écarté, c'est un peu dommage.
Alors, je vous avoue que concernant le nouveau festival, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, le CLEMI lui-même n'est pas sollicité et n'y intervient plus. Hein, mais c'est peut-être l'occasion, effectivement, dans le cadre de nos projets de collaboration, de relancer la région pour voir comment, effectivement, on pourrait à nouveau collaborer. Hein. De mon côté, je peux solliciter la région. C'est vrai que ces dernières années, nous n'y avons plus participé, nous non plus.
Oui, je voudrais juste préciser que nous travaillons au niveau national assez étroitement avec le CLEMI dans le cadre de l'organisation de la semaine de la presse, avec notamment Éric Lucas, qui est le délégué à l'éducation au sein du syndicat national des radios libres, qui est partie prenante dans l'organisation de cette semaine, et que beaucoup de nos radios travaillent pour cette semaine de la presse ou à l'occasion de cette semaine mettent en valeur le travail qu'elles mènent depuis les 40 ans avec les scolaires. Parce que je crois que bon nombre de nos radios associatives sont nées par la volonté de professeurs ou d'instituteurs, maintenant professeurs des écoles, qui ont été à l'origine de nos radios associatives et qui sont encore là hein, en tant que dirigeants. Donc, les premiers animateurs, je ne me trompe pas, je ne pense pas, c'était justement les scolaires, les professeurs qui venaient avec leurs élèves pour parler à la radio. Et il y a eu toute une formation, la fameuse éducation aux médias que l'on met en valeur actuellement, eh bien, nous la menons depuis 40 ans. Et je crois que c'est vrai que ça se concrétisait par le cadre de ce Festival des lycéens, ou encore aussi à l'Université d'été de la communication d'Ourthain, où nous y étions pendant une dizaine d'années et où nous organisions des stages. Et tout cela nous a permis justement aussi de former des gens à cette radio de proximité qui a une réactivité durant ces périodes de crise. Je voudrais revenir sur l'événement de l'année dernière où les radios associatives, j'insiste sur les radios associatives puisque c'est aujourd'hui pour ça que nous sommes là, étaient l'interlocuteur privilégié comme à Casteljaloux ou dans bon nombre de régions en France, les radios associatives, les radios locales, je préférerais dire, parce qu'il y a des locales commerciales qui font le même travail que nous. et qui étaient bien présents pendant cette crise pour indiquer aux gens justement quels étaient les lieux publics qui étaient ouverts. Les pharmacies où l'on pouvait trouver des masques ou du gel, parce que c'était ça au tout début. À qui on a fait appel ? Eh bien, aux radios associatives. Pourquoi ? Parce qu'on les connaissait, qu'il était facile de joindre le président, le journaliste ou autre personne ou technicien animateur, puisqu'on le connaît, on a son numéro de portable, ce que l'on ne peut pas faire avec les médias nationaux. Donc, c'était très facile. Et nous, dans nos radios, comme je le dis bien souvent en souriant, on a très peu de moyens, donc on a la débrouille. Donc, ce qui fait que tous les gens qui travaillent à la radio savent passer pratiquement une information à la radio. Même une secrétaire, un comptable ou autre, voilà, il sait ouvrir un micro ou passer l'information aussitôt. On peut bouger la programmation pour donner l'information aussitôt. Attention, en période de crue, voilà, sachez que actuellement, voilà, ou telle route ou la neige en montagne, les radios associatives sont très présentes l'hiver pour indiquer, ben ça y est, on peut pas circuler sur cette route où il faut les chaînes ou autre chose. Donc, et justement, par la formation que l'on donne à ces jeunes, on leur fait prendre conscience justement de tous ces événements-là. Et surtout, on leur permet aussi de décrypter l'information, l'actualité. Et je crois qu'actuellement, avec la généralisation des réseaux sociaux où il se fait de bonnes choses, hein, et on les utilise hein, nous-mêmes, il se dit ou qu'il se fait n'importe quoi, décrypter l'information est vraiment quelque chose d'important. Et on le fait depuis maintenant, et vous le savez très bien puisqu'on travaille ensemble, depuis donc maintenant 40 ans. Donc ce côté éducatif est primordial à tous les niveaux. Et comme dit quelqu'un que j'aime bien, Éric Lucas, la radio, c'est de la radio, c'est de la formation formelle, mais surtout informelle. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent sans le savoir, eh bien, on les forme et on les informe.
Concernant la manifestation que vous évoquez, la semaine de la presse et des médias dans l'école, c'est vrai que c'est un temps fort pour nous, hein, même si on fait de la radio toute l'année et que les projets que j'ai évoqués tout à l'heure avec, dans les lycées, avec les maisons des lycéens, ça c'est des projets voilà, qui courent sur l'année. Mais ce temps fort de la fin du mois de mars, c'est vrai qu'on pourrait vous associer dans le sens où moi, normalement, les médias s'inscrivent à la semaine de la presse en décembre. C'est tout le mois de décembre, à peu près l'inscription sur le site clémy.fr. Et ensuite, les enseignants s'inscrivent le mois suivant. Et après, moi, j'ai un fichier Excel où j'ai toute la liste des médias inscrits et je peux identifier les radios associatives. Et c'est vrai qu'une année, j'avais essayé par département de mettre en relation. Il y a 2-3 ans, j'avais essayé de faire ça, mais c'était assez compliqué parce que ce que je n'ai pas dit quand même, c'est que le Clémy, c'est un petit service. Hein, c'est-à-dire que je ne suis pas un service à moi toute seule, mais presque. Non, on est deux en vérité. Enfin, il y a 2 emplois temps plein, dont un formateur radio à mi-temps, mais c'est vrai que chercher sur un tableau Excel les correspondances à faire entre des enseignants qui se sont inscrits à la semaine, qui ont envie de faire des choses, et puis des médias qui, eux, proposent des choses. Donc, on avait essayé, ça n'avait pas fonctionné, mais peut-être que là, maintenant, on est en contact. C'est peut-être l'occasion de quand j'aurai le fichier des inscrits, et j'espère que vous serez inscrits, mais on pourra communiquer pour vous inciter à le faire, parce que parfois, on peut oublier. Et à ce moment-là, moi, je vous propose, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir, bon là c'est vrai qu'avec la crise sanitaire c'est compliqué, mais à ouvrir vos studios pour accueillir des classes. Est-ce que vous êtes prêts éventuellement à aller dans un établissement pour mener une activité? Enfin, vous voyez, on peut imaginer des choses. Hein. Il y a déjà ce temps fort qui peut être un démarrage, une porte d'entrée aussi sur la question de l'éducation aux médias.
Juste pour rebondir, en fait, je crois que ça fait 100 ans qu'on se cherche entre l'éducation nationale et l'éducation populaire. Tout ce qui est dit, on l'a vécu et on l'a pratiqué, puisque quand on parle de l'éducatif, bien évidemment que c'est central parce que c'est le pouvoir d'agir du citoyen ou de la citoyenne et que les personnes en conscience, ça fait des citoyennes et citoyennes accomplies et en référence avec leur environnement, que ce soit politique dans le sens noble du terme et que ce soit dans leur engagement politique dans le sens également noble du terme. Donc du coup, c'est un outil aussi, on parle de l'information, de la communication, mais il est aussi, et notamment encore plus aujourd'hui, puisqu'on parle de crise, il est aussi un outil de lutte contre l'illettrisme. On parle de posture, mais on parle aussi d'écriture. Et donc du coup, on se cherche, on se replie, puisque nous-mêmes et chacun d'entre nous, on se replie par rapport à nos propres contraintes internes, que ce soit par rapport à des financements, que ce soit par rapport à l'essoufflement des bénévoles, que ce soit par rapport à l'essoufflement des professionnels, puisqu'on le sait que ça tient à des personnes et pas forcément à des politiques publiques. C'est pour ça qu'on doit continuer ce plaidoyer, et je suis ravie que nous ayons des politiques avec nous également, parce que ça participe aussi à transmettre des choses et à l'inscrire sur le territoire, au même titre que les radios associatives sont inscrites sur les territoires. Donc voilà, donc je voulais avoir cette petite réflexion ou réaction, parce qu'en fait, il faut encore une fois un village pour élever un enfant, et que nos conceptions associatives ou institutionnelles, parfois, nous font oublier que c'est important qu'on soit autour des personnes et qu'on puisse les accompagner. Cette parole qui se libère, on la travaille depuis plus de 40 ans, on la travaille aussi avec d'autres types d'enseignements, donc les lycées professionnels, les lycées agricoles. Donc, et vraiment, sincèrement, je pense qu'on s'essaye régulièrement parce qu'on souhaite aussi s'approprier des espaces, et je l'entends complètement, mais je pense que ce qui se fait, qui se fait bien, il faut le garder. Ce qui se fait, ce qui ne se fait pas bien, il faut le sortir et s'adapter. Et on a cette capacité d'adaptation, puisque chaque année, on se retrouve aussi entre nous au niveau local, départemental, régional, pour réfléchir, comme cet après-midi, à la crise. Ben, la crise, elle nous concerne, mais aussi quelle sorte d'acteurs et d'actrices nous souhaitons être pour ce présent qui ne va pas bien, plutôt que de construire un avenir alors que c'est aujourd'hui. Le présent est un cadeau aussi, donc à nous de nous en saisir. Voilà, c'était juste une petite réflexion. Merci.
Merci beaucoup.